Si je trouvais une porte fermée, je m'attaquais à elle avec toute la haine dont j'étais capable. Dois-je confier cela au papier, le profond secret de l'être humain? Au fur et à mesure que j'avançais dans mon travail, je devenais aussi pervers que le démon. Comme un acteur tragique, je baissais le front, je bombais le torse, je me pavanais fou d'orgueil. Ce n'était plus un feu d'artifice pour plaisanter, mais un incendie criminel que j'étais en train de préparer avec une diabolique malveillance. La rage de broyer, de dévorer, de dévaster faisait de moi un chien enragé. Je m'étais fait l'état d'esprit d'un Néron et d'un Nabucodonosor. Ma bouche proférait toutes les obscénités des bas-fonds et je provoquais le ciel par des cris et des ricanements. Aucun homme que je sache n'avait déliré jusqu'à ce jour avec plus de frénésie. Le jour où je déposais mes explosifs aux quatre coins de la ville, bien qu'assuré de ma toute-puissance, j'étais si exaspéré par la lenteur de mon tracteur que je tapais dessus à coups de pied. Au moment d'attaquer la côte de Old Drover Road, il refusa d'aller plus loin, le convoi était trop lourd. Il n'y avait pas d'autre tracteur en vue, restait un tramway. Mais la mise en marche d'une station électrique avec ou sans commande automatique m'aurait demandé un tel travail que j'y renonçais. Au bout d'une demi-heure, cependant, je me souvins d'avoir vu dans les environs une centrale électrique à turbine. Je couvris les camions de bâches, trouvai une automobile en état de marche et je partis sans souci d'écraser qui que ce soit. Je finis par reconnaître la centrale dans une rue adjacente. J'y pénétrai par une fenêtre, tant j'avais hâte d'en finir. Je trouvai des chiffons et essuyai la poussière d'un commutateur. Puis je courus ouvrir les robinets d'eau afin de remplir les turbines. Je plaçai ensuite les graisseurs sur les conduites, réglai le générateur et me précipitai sur la galerie pour donner le courant. La nuit commençait à tomber. Je me dépêchai de sortir et mis la voiture en marche. En tournant dans ma rue, je poussai un cri de surprise. La rue maudite était joyeusement éclairée. Trois lampes à arc, à peu de distance l'une de l'autre, révélaient le moindre aspect de ce champ de cadavres. Une chose produisit sur moi un effet fantastique, dont je garderai l'impression jusque dans ma tombe. C'était une enseigne lumineuse au-dessus d'un magasin, dont les lettres s'allumaient l'une après l'autre, puis s'éteignaient, s'allumaient à nouveau, pour mon seul divertissement. Buvez Roboral. Ce fut le dernier message que l'humanité civilisée m'adressa à moi, Adam Jeffson. Son dernier évangile. Buvez Roboral. Cette absurdité déchaîna en moi une telle colère, pareille à celle que peut susciter le rire des squelettes, que je me précipitai hors de la voiture et lançai deux fusées contre l'enseigne électrique. Puis je cherchai des pierres pour la lapider, mais il n'y en avait pas. Je dus donc contempler cette chose qui violait mon regard avec sa répétition tenace, son clignotement ironique. Buvez Roboral. Cette annonce publicitaire avait été déclenchée par un petit moteur alimenté par la centrale électrique que je venais de remettre en marche. C'était tellement absurde que j'arrêtai tout travail ce jour-là. D'ailleurs, il était tard. Je retournai donc à mon hôtel, maussade et fatigué, assuré que Roboral ne pouvait en rien guérir la moindre de mes blessures. Le lendemain matin, je m'éveillai dans une toute autre disposition d'esprit. J'étais disposé à flâner et à laisser aller les choses. Après avoir fait ma toilette avec de l'eau de rose fraîche, je descendis à la salle à manger, où le soir précédent, j'avais préparé mon repas pour le matin. Je parcourus un de ces corridors sombres et assourdis où gisaient deux morts seulement, mais il y en avait beaucoup d'autres derrière les portes. Une fois restauré, je sortis, pris 4 bidons d'essence dans des voitures et partis dans la mienne pour Woolwich. Du moins, telle était mon intention, mais au lieu de traverser le fleuve à Blackfriars, je continuais en direction de l'est. J'entrais dans Cheapside, où il était impossible de passer à moins de se faufiler entre les obstacles, et j'étais sur le point de revenir en arrière quand j'avisai une boutique de phonographe. J'y entrai par une porte de côté, curieux d'écouter ce qu'il était encore possible d'entendre. J'emportai un phonographe et quantité de rouleaux enregistrés. On respirait encore dans cette boutique close une forte odeur de pêche qui me déplaisait et je me hâtai de repartir vers l'ouest de la ville. Je cherchais dans les rues étroites une maison où je pourrais m'abriter du vent quand, soudain, je reconnus la maison du Parlement. J'y entrai avec mes 2 paquets et je déambulai dans cet antique édifice orné de bustes poussiéreux en direction d'une table sur laquelle je déposai le phonographe à côté d'un objet de cuivre qu'on appelle la masse. Je m'installai avec l'intention d'écouter les enregistrements. Malheureusement, le phonographe avait un mouvement d'horlogerie et quand je voulus le remonter, je m'aperçus qu'il était détraqué. Cela me rendit furieux. J'étais sur le point de l'envoyer promener d'un grand coup de pied quand je remarquai un homme assis sur un siège qu'on appelle la chaise du speaker. Sa posture était étrange. J'avais l'impression qu'il se penchait avec intérêt pour observer ce que j'étais en train de faire. C'était probablement un homme du Maghreb, très brun de peau, avec un nez juif et des cheveux crépus. Il portait un keffieh et une robe flottante, sans doute un galla. Autour de lui, il n'y avait que 7 autres personnes assises sur les bancs. La plupart avaient la tête légèrement inclinée en avant et semblaient sommeiller. La salle donnait une impression de vide et de solitude. Mais devant ce galla ou ce bédouin, qui prêtait un intérêt grotesque à ce que je faisais, j'évitais de faire des mouvements désordonnés, et à force de gratter et de nettoyer, je finis par mettre le phonographe en marche. Toute la journée jusqu'au soir, oubliant la faim et le froid qui me gagnaient peu à peu, j'écoutais en rêvant, cylindre après cylindre, des chants frivoles, des orchestres, des voix d'hommes célèbres à qui j'avais serré la main, avec qui j'avais causé. Je les entendais de nouveau. Ils parlaient d'une voix rauque, empâtée, comme si cette voix provenait de l'au-delà. Étrange parole. Quand je mis le 4e enregistrement sur l'appareil, je reconnus, dès le début, la voix tonnante que je connaissais bien, celle du pasteur Mackay. Inlassablement, à plusieurs reprises, j'écoutai les paroles qu'il prononça au moment où le nuage atteignit la longitude de Prague. Dans ce torrent oratoire, rien qui ressemblât à son avertissement, je vous annonce que... c'était plutôt un appel au recueillement. « Prie-le, ô monde terrestre, car il a dit « Je suis celui qui est ». Et s'il m'égorge, j'accepterai son épée en riant, et je la lui présenterai devant sa face en grand plaisir, car son épée est une épée de joie, et son poison est la fin de la mort. C'est pourquoi, ô race des hommes, ne t'occupe plus de rien. Que vos cœurs soient réconfortés, et que vos lèvres goûtent mon miel. Bien que vous soyez devenus durs comme l'acier, et que vous soyez sortis du chemin, il est encore plus grand que vos péchés, et vous ramènera dans la juste voie. Ne vous dispersez pas, cœur brisé, car j'accours à toi, homme, comme son héros, pour proclamer l'antique message. C'est toi qui l'as choisi, et c'est avec toi qu'il a partagé sa couche dans les anciens temps, ô affligé. Il est toi, chair de ta chair, et si tu dois mourir entièrement, c'est parce qu'il est mort entièrement, lui aussi, car tu es lui. espoir et sourire étincelants au zénith et au nadir de l'abîme. Il est souple comme une belette, il se faufile comme le vif argent. Ses solstices, ses équinoxes et ses tropiques, ses départs et ses retours sont innés dans l'être, et quand il tombe comme un arlequin, ou comme le volant d'un jeu de volant en secouant le plomb de ses pieds. Et tous les 3 jours, il rebondit de nouveau. Ses défaites sont simplement les rudes échafaudages qui lui permettent de construire ses Parthénons, et la fin de cet univers ne sera pas un nuage à l'odeur de fruits malsains, mais le carnaval et la fête des moissons, quoique vous soyez bien endurci, triste cœur. » Ainsi parla Mackay d'une voix un peu voilée. Je découvris que cette salle brune de la Chambre des communes, avec ses bancs verts et ses galeries grillagées, n'était pas sans agrément dans l'humeur où j'étais. J'y retournai le lendemain pour écouter d'autres enregistrements, mais je finis par m'en lasser. J'étais démangé par l'idée d'entendre des choses scandaleuses et les révélations des âmes empoisonnées. Ces rouleaux, trouvés dans une boutique, ne me révélaient rien. Je décidai donc d'aller à Woolwich, mais trouvant dans le tracteur le cahier du poète dans lequel j'avais commencé à prendre des notes, je le pris et retournai au Parlement où je notai mes impressions pendant 1 heure. Et puis cela aussi me fatigua. Comme il était trop tard pour aller à Woolwich ce jour-là, je déambulai à travers les salles de comité poussiéreuses et les recoins de ce remarquable édifice. Dans une des salles, je recommençai à divaguer. Une fois de plus, mes caprices me gouvernaient d'une manière plus absolue que les lois des Mèdes. Dans la salle numéro 15, je trouvai un jeune policeman étendu sur le dos. Je l'observai avec curiosité. Son casque avait basculé derrière son crâne, et dans une de ses mains gantées de blanc, il tenait une enveloppe officielle. Cette petite pièce tranquille était encore imprégnée de la senteur de pêche, mais le cadavre, lui, ne dégageait aucune odeur. Il était assez corpulent et sa peau avait la couleur de la cendre. Dans chaque joue, il avait un trou grand comme une pièce de 6 pence. Ses paupières étaient rentrées dans leur caverne, et derrière la frange des cils, je pouvais entendre le bruissement que faisait le mot « éternité ». Ses cheveux semblaient bien longs pour un policeman, mais ils avaient peut-être poussé depuis sa mort. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le pli qu'il tenait à la main. Pour quelle raison, me demandai-je, ce garçon était-il là un dimanche après-midi à 3h10 avec une enveloppe? Cela m'incita à le regarder de plus près, et je vis une plaie à sa tempe gauche. Il avait donc été tué d'un coup de feu ou assommé. J'enrageai à la pensée que ce pauvre homme avait été assassiné dans l'exercice de ses fonctions, alors que la plupart des gens avaient quitté leur poste pour prier ou pour se livrer à une dernière débauche. Alors je lui dis « Eh bien, D-47, vous dormez d'un profond sommeil, et vous avez bien fait de mourir de cette façon. Je suis content de vous, et je décrète que, pour vous honorer, vous serez enterré de mes propres mains. » Cette décision prise, il me parut urgent de la mettre à exécution. Je pris dans ma voiture mon levier et ma bêche, et je me rendis à Westminster Abbey. Je soulevai une dalle dans le transept sud et je commençai à creuser une fosse. Mais je ne sais pourquoi, quand j'eus gratté quelques centimètres, le courage m'abandonna et je n'allai pas plus loin tout en me promettant de reprendre le travail plus tard. Je ne le fis jamais car le lendemain, j'étais à Woolwich, occupé à tout autre chose. Les 4 jours suivants, je travaillai fébrilement avec une carte de Londres devant moi. Cette ville était tellement complexe, avec ses lieux secrets, ses larges espaces, ses abominations. Dans les caves des docks de Londres, un réservoir contenait 500 000 litres, et le cœur en fête, j'y menais mon convoi. L'entrepôt des tabacs couvrait 4 hectares. J'y plaçais une fusée. Dans une maison près de Regent's Park, fermée du côté de la rue par des taillis et un mur, je vis une de ces choses. Tout ce qu'une grande ville dissimule, je le sais maintenant. Je visitais dans les moindres détails chaque quartier de la ville, avec un convoi de 8 véhicules traînés à présent par 3 tracteurs. Je parcourus West Ham et Kew, Finchley et Clapham, Dalston et Marylebone. Je déposais des explosifs au Guildhall, à Holloway Gaol, à la Tour, au Parlement, à Saint-Gilles Workhouse, à Whitley's Place, dans Trinity House, à l'Office du Travail, dans les réserves du British Museum, dans 100 d'entrepôts, dans 500 magasins, dans 1 000 000 d'habitations, et je réglais la mise à feu à minuit le 23 avril. L'après-midi du 22 à 5 heures, j'abandonnai mon convoi à Maida Vale et je partis seul vers la maison que j'avais choisie, située sur une hauteur du côté de Hampstead Heath. Tout était prêt. L'aurore parut et je fus vite sur pied car j'avais beaucoup à faire. J'avais l'intention de partir pour la côte dès le lendemain. Il me fallait choisir une automobile, la mettre en état de marche et lui trouver un abri. Il me fallait aussi remorquer un autre véhicule empli de coffres, de fusées, de livres, de vêtements et de divers autres objets. Je fis un premier voyage à Woolwich, où j'emportai toutes sortes d'instruments mécaniques d'une grande utilité. J'allai ensuite à la National Gallery, où j'enlevai de leur cadre la Vision de Sainte-Hélène, l'Enfant buvant de Murillo et le Christ à la colonne. De là, je retournai à l'ambassade pour me baigner, me parfumer et m'habiller. Comme je l'avais prévu et souhaité, une violente tempête souffla du nord. En partant d'Hampstead à 9 heures du matin, je pus constater, non sans orgueil, que mes fusées étaient en bon état de fonctionnement, car en certains endroits, je vis la fumée s'élever, et de temps à autre, j'entendais les détonations et ressentais les secousses d'une explosion lointaine. C'était un peu comme les explosions de la montagne Pelée qui se répercutèrent, pareilles aux échos de la voix de Dieu, de la Martinique à la Guadeloupe. À midi, je compris que plusieurs quartiers de l'est de Londres étaient en flammes. Avec un sentiment de solennité comparable à celui des jeunes mariés le matin de leurs noces, le cœur froid mais gonflé par l'espoir de joie passionnée, je commençais à préparer l'orgie nocturne. La maison d'Hampstead, qui est sans doute encore debout, est d'une architecture rurale de bon goût. Bâtie en pierre, ses murs occupent une belle surface. Elle a 2 pignons effilés, des fenêtres à meneaux, les auvents du toit en forte saillie. Ce qui la dépare, c'est une tour qui la flanque au sud-est. J'y avais dormi la nuit précédente, nanti d'une boîte d'un pâle tabac composée de feuilles de rose et d'opium, trouvée dans une demeure étrangère de Seymour Street, et d'un véritable hookah de Salonique. Je m'étais aussi approvisionné de vin des Cyclades, de noix et d'autres bonnes choses. Enfin, j'avais une harpe d'or, signée de Krasinski, trouvée dans sa propre maison, dans Portland Street. Mais je trouvais tant de choses à faire ce jour-là, et je désirais emporter avec moi de si nombreuses curiosités, que je ne pus partir avant 6 heures pour le nord, en passant par Camden Town. Une sorte de terreur emplissait mon âme en entendant les déflagrations solennelles qui m'environnaient de tous côtés, une terreur ineffable et sacrée. Je n'aurais jamais pu rêver quelque chose d'aussi grand et d'aussi fort. Partout au-dessus de ma tête, des nuages enflammés pareils à des gorges ouvertes se hâtaient vers le sud. Mêlés aux rugissements, j'entendais d'invraisemblables bruits d'effondrement et de charroi, comme si des titans déménageaient leur mobilier. L'air retentissait de cris éplorés et frénétiques, pareils aux lamentations antiques mêlées de plaintes sauvages, de chants de cygnes, de toutes les jérémiades que pouvait provoquer l'effondrement du cosmos. Je savais pourtant qu'à cette heure-là, l'incendie ne s'était pas généralisé, il venait à peine de commencer. Comme j'avais pris soin de ne pas garnir de matières inflammables le quartier situé au sud de la maison que je devais occuper, et comme le vent soufflait du nord, je laissai simplement mes deux véhicules devant la porte, sans aucune crainte. Je montai à la tour, j'allumai les bougies et dévorai le dîner que j'avais préparé d'avance. Les mains tremblantes, je fis consciencieusement le lit sur lequel j'avais l'intention de m'étendre au petit jour. Le lit se trouvait en face d'une large fenêtre gothique, dont l'appui était placé assez bas et qui donnait au sud. Je pouvais ainsi me prélasser dans le fauteuil et tout voir. Cette chambre avait été celle d'une jeune femme. Des flacons en cristal de lalique, une tresse de cheveux bruns, des poudriers, du rouge à lèvres, une petite pantoufle de bronze et diverses babioles étaient déposées sur la toilette. Je l'aimais et je la haïs, cette femme, sans l'avoir vue. Bref, avant 9 heures, j'étais assis devant la fenêtre, impatient d'assister au spectacle dont j'étais l'ordonnateur. Tout était prêt, j'éteignis les bougies. Le rideau allait se lever, l'atmosphère de cette terre ressemblait à celle de l'enfer, et l'enfer était dans mon âme. Tout de suite après minuit, la conflagration prit toute son ampleur. De tous côtés, je commençais à voir des édifices flamber et sauter en l'air, par 5 et par 10, puis par 20 et 40. Tout ce que mon regard embrassait s'ébranlait, se désagrégeait et s'écroulait. Dans mon esprit grandissait un sentiment profondément mystérieux, un frémissement délicieux. Je me délectais avec raffinement, je jouissais du spectacle en toute tranquillité. De temps à autre, quand un énorme ange de flamme s'élevait dans la nuit, restait suspendu un moment en étendant ses bras de tous les côtés, puis se dissolvait, je me levais pour applaudir, ou bien je l'interpellais avec des noms féminins, comme « Plus haut, sauvage poli !» ou bien « Hop, Sini, saute, espèce de puce !» ou encore « Éclate, Berthe !» Il me semblait voir tous les démons de l'enfer déchaînés à travers un rideau cramoisi. La chaleur était suffocante, mes prunelles étaient dilatées comme les prunelles de ceux qui se promènent au milieu de fournaises ardentes et la paume démangée d'une irritation sublime. De temps en temps, je touchais les cordes de la harpe et je jouais l'air de la chevauchée des Walkyries de Wagner. Vers 3 heures du matin, ma perverse délectation atteignit son apogée. Mes regards ivres se fermèrent sur un spectacle éblouissant et mes lèvres se crispèrent dans un sourire baveux. Le sentiment d'une paix chèrement acquise, d'un pouvoir sans limite, était mon réconfort. Dans le champ de manœuvre que je contemplais, à travers des torrents de larmes, ce fut le défilé en direction du sud de 100 000 tonnerres, et, clamant par-delà les nuages l'énoncé de ce martyrologe, il atteignit l'horizon dans un océan de feu dans lequel s'ébattaient et se baignaient tous ces habitants de l'enfer. Moi, le premier de mon espèce, j'avais marqué d'un sceau de flamme la planète Terre.